Hollywood, l'usine de rêve de l'univers, la Mecque du cinéma pour les uns, pour d'autres Babylone moderne, un Olympe peuplé d'êtres quasi divins aux yeux de millions d'admirateurs à travers le monde, a vu l'effet du scandale et de la calomnie, penché sur son berceau doré.
On brûla beaucoup cette année-là. Au cours d'un procès de divorce à Hollywood, procès à scandale s'il en fut, le juge décrétait la destruction par le feu du journal intime de la star Mary Astor, pièce à conviction jugée scabreuse. Car ce journal décrivait avec chaleur non seulement les amours de l'auteur, mais aussi l'étrange comportement du mari de Mary, le mondain Dr. Franklin Thorpe. Ce dernier soignait en effet ses patientes de la haute société hollywoodienne, jolies et nombreuses, pendant des nuits entières dans la maison conjugale, alors que l'épouse troublée regardait à travers la serrure. Mary y racontait également ses aventures extra-conjugales fort brûlantes avec George S. Kaufman, auteur des scénarios des Marx Brothers. On peut dire que la destruction de ce journal intime est vraiment une grande perte, car les extraits publiés à la une de tous les journaux américains révélaient un talent d'écrivain aussi grand chez Mary Astor que son talent de comédienne, et sa manière érotique peut faire penser à un Pyrrhon du sexe faible. Mary Astor ne tarda pas à reparaître sur l'écran, plus grande actrice que jamais, comme on put en juger avec sa création de la meurtrière dans Le Faucon Maltais ou de la mégère dans The Great Lie. Comme étant d'actrice hollywoodienne, Mary Astor devait sombrer dans l'alcoolisme et finir dans les mains d'un psychiatre. Ce dernier lui recommanda d'écrire sa confession, ce que Mary fit. Toujours habile écrivain, elle révèle entre autres que les fameux extraits de son journal paru dans les journaux des années 30 n'étaient que des contrefaçons. Que ses multiples aventures avec les hommes, y compris le célèbre épisode avec George Kaufman, n'étaient que jouissance physique, à l'exception de John Barrymore, le véritable amour de sa vie. Mae West, magnifique et gaillarde, fit son entrée à Hollywood en 1932 avec un contrat de la Paramount porté par une vague publicitaire de succès à scandale new-yorkais. Une série de pièces osées, écrites et jouées par elle avec style et brio, et dont les titres allaient vertement de sexe à The Pleasure Man, lui avait conquis Broadway. Elle fit vite partie de la mythologie hollywoodienne et créa un mémorable personnage de Vénus mûre, franche et avertie, qui savait ce qu'elle voulait et comment l'obtenir, et pour qui l'amour était avant tout un sport où elle prenait volontiers les devants. Il n'y eut qu'elle, après Catherine de Russie, pour déshabiller ses partenaires du regard, comme pour s'assurer de la grandeur de leurs sentiments. Les comparaisons ne lui manquaient guère. Certaines de ses répliques devinrent célèbres et entrèrent dans les mœurs américaines. « Faudra monter me voir. »« J'aime un homme qui prend son temps. » Ou encore « Ce n'est pas les hommes dans ma vie qui comptent, mais la vie dans mes hommes. » Dans ses robes collantes 1900, ruisselant de strass, elle rendait leur prestige aux courbes féminines plantureuses, éclipsées pendant les années 20 par des silhouettes garçonnières. Une ligne courbe, assurait-elle, est la plus jolie distance entre deux points. Et sa populaire voix rock excitait les hommes grâce à des chansons suggestives. Les Américains l'adorèrent. Pas tous, cependant. Hearst, retiré à Saint-Siméon, forteresse juchée sur une montagne californienne, devenu avec l'âge et l'insuccès politique aigri comme la déclinante Marion Davis, déversait son spleen dans ses 35 journaux. Avec une singulière absence d'humour, il entra en guerre à coups d'éditoriaux contre Mae West, cette messaline américaine, ce monstre de lubricité, cette menace pour l'institution sacrée de la famille américaine, qu'il fallait pourchasser de ville en ville et expulser du pays à coups de pierre. Hearst s'en prit à son dernier chef-d'œuvre, Klondike Annie, où Mae chantait des hymnes sur un rythme de jazz, déclarant que c'était un spectacle blasphémateur, dégoûtant et corrupteur, contre nature et contre Dieu, que tous les gens de bien devaient fuir. Les éternelles associations de vieilles filles puritaines étaient toujours en quête de chats à fouetter, la campagne fut reprise à travers tout le pays, et les films de Mae West interdits dans plusieurs communautés, sous la pression de l'infâme National Legion of Decency, le Ku Klux Klan du 7e art, ligue d'inspiration jésuite, dont Mae avait eu le singulier honneur de provoquer la fondation. Les puissants journaux de Hearst refusèrent toute publicité à ses films, et Mae commença d'avoir des ennuis avec la Paramount. Mae savait bien quelle était sa réputation, et il faut dire qu'elle faisait l'impossible pour lui rester fidèle. Le scandale était devenu pour elle une sorte de seconde nature, qu'elle ne tentait nullement de rejeter. Pendant le tournage de Ce n'est pas un péché, Mae arrivait au studio escortée de jeunes costauds, ses gardes du corps, qui ne la quittaient jamais d'une semelle. Elle aurait même reçu des lettres anonymes, la menaçant de kidnapping, crime très à la mode pendant les années 30, comme la baby star Shirley Temple. Car Hollywood exploitait à cette époque ces deux âges du sex-appeal féminin, la capiteuse Mae West et le poupon Shirley Temple, qui, encouragée par sa mère et Daryl Zanuck, singit les déhanchements de sa rivale. Shirley miaulait des chansons bébêtes à sous-entendu, tout en exhibant sous des jupettes trop courtes des petites fesses pour s'attirer. À Londres, Graham Greene la qualifiait de dépravée, et à Paris, Antonin Artaud, après s'être excité à la projection de Fossette, hurlait dans la salle contre cette petite salope. Mae West, peu friande des prépubères, secondée par son ami W.C. Fields, semait le bruit que Shirley était en réalité une naine de 50 ans, comme Cocteau et Carmen Tessier le diront plus tard de Minou Drouet pour de tout autre motif. Réelles ou publicitaires, les menaces de kidnapping offraient de substantiels avantages à Mae West, qui, entre deux prises de vue, disparaissait dans sa somptueuse loge de satin rose avec son escouade de gardes du corps ayant accroché sur sa porte la pancarte « Ne dérangez qu'en cas d'incendie ». Bien qu'éloignée aujourd'hui d'Hollywood, la sexagénaire May se plaît toujours à s'entourer d'escouades sexy. Jane Mansfield, entre autres, peut la remercier pour y avoir déniché Mickey Hargitay, son mari musclé.